sommes entre Loire et Loin, c'est le magazine du Gâtinais sur ses deux ailes. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous écouter. On a changé d'heure, on s'enfonce un petit peu plus dans les profondeurs de l'automne et un certain nombre de structures ferment leurs portes pour hiberner et nous rouvrirons qu'au printemps. C'est le cas par exemple de l'Arboretum des Bars à Nogent-sur-Vernisson où nous sommes allés faire un tour le week-end dernier pour profiter des jolies couleurs d'automne et des derniers rayons de soleil. Et ce fut l'occasion de jolies rencontres avec Marie et Bérangère tout d'abord de l'association Écolocataire qui anime là-bas des visites guidées à l'Arboretum mais aussi ailleurs. Elles nous en diront un petit peu plus tout à l'heure. Avec Ludovic Hamelot, un jeune auteur à qui la nature et la forêt ont inspiré un roman, La Sentinelle de la Forêt. Il nous racontera ça également. Avec Marie, la chargée de communication et d'accueil de l'Arboretum, qui nous expliquera comment est né ce lieu magique, à quoi il sert, comment il fonctionne, etc. Et enfin avec Julien, pépiniériste, passionné de plantes à la fois exotiques, aromatiques, etc. Un personnage étonnant avec plein de petits produits étonnants aussi. Une émission très bucolique donc aujourd'hui, mais pas que, parce que nous sommes aussi allés jusqu'à Briard rencontrer Stéphane Godefroy qui nous a fait visiter un lieu étonnant, une pépinière théâtrale, le théâtre de l'Escabeau.
Voilà, alors on a été de grands aventuriers aujourd'hui, Stéphane Godefroy, vous avez vu, on est passé de Montargis à Briard.
Et c'est tout à côté, ça fait loin.
Oui, c'est tout à côté. Non, mais et c'est tout à côté, les Montargois, quand même, Briard. Alors, pour aller dans un aussi bel endroit que le... Alors, c'est le Théâtre de l'Escabeau, moi, je dis. Mais en fait, c'est le Théâtre de l'Escabeau, pépinière théâtrale.
Alors, raconte, c'est l'Escabeau, pépinière théâtrale. C'est ça, le nom. Et c'est-à-dire, pourquoi pépinière théâtrale? Parce qu'il y a trois compagnies. Il y a une compagnie pro... une compagnie amateur et une jeune compagnie sur la création des moins de 30 ans qui sont en voie de professionnalisation ou qui veulent faire leur métier de l'art dramatique ou pas d'ailleurs.
Alors, d'où viennent ces gens? Quelle est la fréquence des cours ou des créations? Comment ça se passe?
L'idée, l'Escabeau existe depuis 84 à Briard, dans cette très belle ferme sociétale avec des bâtiments qui font plus de 100 mètres de long, qui était une des fermes modèles, comme on appelait ça au 19e siècle, et où on récupérait, il y avait 300 têtes de bétail, on récupérait le petit lait, la caséine, pour faire les bijoux fantaisie et les premiers émaux de Briard, les fameux émaux de Briard, c'était fait avec ça. Donc cette ferme était rattachée complètement à l'entreprise de briaroise, des Babteros, qui avait créé ça dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et on a changé de bétail, tout simplement. On a mis des comédiens à la place des bovins. Voilà, c'est bien aussi. Ça boit plus, mais ça mange plus gras. Mais voilà. Non. Et l'idée, c'était vraiment au début, c'est parti d'un théâtre amateur de qualité, avec des grands noms même du théâtre français, comme Michel Villermoz, qui a commencé à travailler ici, qui était de Montargis à la base, qui est à la Comédie Française, comme des Stanislas Nordet, qui ont travaillé ici, puis plein d'autres.
Villermoz, et Cyrano.
Voilà, Cyrano, voilà. Mmh. Très bien, hein. J'arrive à le faire de profil un peu aussi. L'idée, c'était de se dire, pour pas qu'il y ait une querelle entre les anciens et les modernes, entre les amateurs et les professionnels, il y a quelques années, il y a eu une sorte de crise des théâtres associatifs en général, et on a proposé un nouveau modèle, pas seulement économique, surtout un modèle humain, parce que le modèle économique, on s'en fout un peu au début, enfin, il faut s'en foutre, je pense, quand on fait du théâtre, dans un premier temps, puis après, revenir à la réalité, mais sur un modèle humain, de dire que ça ne s'oppose pas, ça s'agrège et ça se nourrit. Les amateurs apportent énormément aux professionnels. Déjà, ça oblige à réinterroger son outil, son métier. Et pour les professionnels, apporte beaucoup aussi aux amateurs dans une idée d'exigence.
J'ai eu l'occasion de voir Chanteclair, par exemple,
oui,
qui était
voilà.
sur ce modèle.
Et bien, qui était sur ce modèle. Parce que le spectacle d'été, cette année, par exemple, on a fait L'Alchimiste, qui était sur le même modèle, réunit tous les spectacles d'été réunissent tant des professionnels, des amateurs que des jeunes. Par exemple, le dernier spectacle, ça allait de 11 ans à 77 ans.
Ça fait combien de temps, Stéphane, que vous êtes là?
Là, ça fait quelques années, depuis le début du festival. Le festival, on l'a créé avec Laurence Février, qui est une très grande metteuse en scène, une très grande dame du théâtre, et avec Philippe Réache, qui est le fondateur, oui, avec Dan, du théâtre de l'Escabeau. Et puis, donc, voilà, j'étais déjà là un petit peu avant, mais on a continué à travailler. Je me suis occupé plus précisément du festival, et puis après, de la programmation à l'année, parce que donc, c'est un lieu qui a une programmation annuelle, régulière, avec chaque compagnie aussi à son festival. C'est-à-dire que le modèle particulier, si vous voulez, ce modèle sociétal presque l'on propose, parce que quand on vient là, ça fait une sorte de familistère ou de phalanstère, pour employer des grands mots, donc des lieux de micro-société où les gens habitent sur place, beaucoup habitent sur place, habitent là, et donc chaque compagnie est liée aux deux autres statutairement. C'est-à-dire chaque compagnie est déposée en préfecture, son nom est déposé en préfecture, mais on est lié. Donc on ne peut pas arnaquer les autres. On peut pas, et je trouve que c'est un très bon modèle politique, social. D'une...
Combien alors de personnes habitent ici?
Alors il y a ceux qui habitent ici, alors moins que ceux qui boivent ici, oui, allez-y, non, sous ça. Il y a ceux qui habitent ici, je ne peux pas vous dire, ça en fait pas mal. Mais des gens qui ont créé le lieu. Moi, par exemple, je n'habite pas complètement ici, mais on a l'avantage d'avoir un gîte, un hébergement, ce qui fait que là, en ce moment, il y a une compagnie qui est en résidence, qui joue dans le cadre, par exemple, qui jouait dans le cadre du festival. On a toujours des compagnies en résidence, ça permet de les loger sur place. Si elles veulent faire les 3-8, bosser la nuit, le jour et tout, elles se débrouillent, le théâtre leur appartient. Je trouve ça très important que des lieux soient complètement ouverts à la création et ne conditionnent pas les créateurs à des heures d'ouverture ou de 14h à 18h. On peut, après, il faut un code, il faut récupérer la clé auprès d'eux. Enfin, voilà. Donc, on essaie d'être loin de ces schémas-là.
Donc, si je ne me trompe pas, il y a eu un festival... Le festival de la troupe amateur qui a eu lieu il y a quelques temps.
Complètement. Les rencontres de théâtre amateur ont lieu à chaque fois fin septembre. Le festival pro a lieu toujours autour de la Toussaint, autour du 1er novembre. Et le festival de la jeune compagnie, qui s'appelle les Planches Fêlées, a lieu toujours au moment de l'Ascension. Ce qui fait que ça fait chacun a son temps fort. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le festival pro, c'est deux autres compagnies qui aident. Et sur le festival de la jeune compagnie, par exemple, eh bien, on peut se retrouver de corvée de Gog ou de quoi d'autre. Voilà, mais c'est toujours au service de la compagnie qui a la main.
Ça fait combien de personnes en tout ça?
Oh, ça fait beaucoup, hein. Pour un géniteur. Non, je sais pas, ça fait 80 personnes au moins qui gravitent autour, au moins. Et alors, sur le temps des festivals, on peut monter à plus même.
Y a-t-il un autre exemple de théâtre qui fonctionne comme vous ailleurs en France? Ça me paraît assez unique. En même temps, je ne connais pas bien le monde théâtral, pour le coup.
Des responsables de théâtre, donc je me méfie aussi de moi par la même occasion, qui ont l'impression que ce qu'ils font est hyper original, oui, et que ça se fait nulle part ailleurs. Donc, je pense que des modèles originaux, il y en a beaucoup. Partout. Et même le propre d'un modèle théâtral réussi, c'est un modèle original. C'est comme ça que parce que c'est proposé d'autres façons de vivre, déjà. Après, de cette façon spécifique, pas trop, j'espère que ça va s'aimer, parce qu'au début, d'ailleurs, c'était drôle par rapport aux tutelles. On se marrait un peu en disant quelle idée de mélanger professionnels, amateurs et jeunes compagnies, comme s'il n'y en avait pas assez déjà, des jeunes sur un mobilette. Enfin, voilà. Donc, il y avait... Et puis, petit à petit, quand on s'est ouvert, on s'est dit que ce modèle-là était peut-être le plus sain. Parce que ça permettait de réunir justement des gens d'horizons très différents et en attendant que le moteur électrique soit complètement uniformisé, le moteur à explosion marche aussi par la friction et par moments de ne pas être de la même génération, de ne pas être de la même culture, de ne pas être du même. Ça permet des choses intéressantes.
Puis vu que vous me disiez 84, donc ça veut dire qu'en plus c'est viable.
Oui, alors ce modèle-là, ce fonctionnement, il est plus récent.
Ah, il est plus récent,
mais,
quand même.
Oui, parce qu'au début, c'était un théâtre amateur, mais oui, c'est viable. Et surtout, on s'aperçoit que, vous voyez, ce que je trouve très intéressant, c'est que déjà, moi, par exemple, je ne suis pas directeur. Je trouve qu'il y a tellement de gens qui nous parlent de 6e République, je pense qu'on peut faire une 6e République très simplement. Et c'est très bizarre, il y a beaucoup de gens de gauche vaguement anards dans le théâtre, mais ils vous disent tous, ah, s'il n'y a pas un chef, ça ne marche pas. Donc on s'aperçoit que ces gens qui sont vaguement anards et de gauche, ils sont tous pour la monarchie absolue. Je trouve qu'il y a un problème, il y a un petit hiatus dans leur discours. Ici, on pense qu'on peut être et faire du théâtre collectif qui travaille ensemble et que le chef, ça peut être réparti sur plusieurs têtes et que la responsabilité, non pas pour se défausser sur des responsabilités, mais peut être partagée parce qu'il y a, il y a des choses qui marchent mieux. On ne fera jamais croire que l'élu, en haut, ça, voilà.
Donc c'est quelle forme ici ? C'est une association ?
C'est trois associations qui créent la pépinière théâtrale, c'est pour ça qu'on a appelé ça lieu de vie et de mixité artistique. Parce que ça donne l'idée de ce lieu, c'est un lieu de vie et de mixité artistique.
C'est quand même des associations, ça m'intéresse particulièrement, je cherche des choses pour ma chapelle. Est-ce que ce sont des associations avec des présidents?
Alors,
des coprésidences?
Il se trouve
c'est collégial?
Chaque association est distincte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux dire à la jeune compagnie, ah là, je trouve que vous devriez faire ça. Et j'ai beaucoup de plaisir à entendre la jeune compagnie me dire, oui, tu as peut-être raison, mais non. C'est ça aussi, c'est accepter ça. Sauf si ça passe, si ça engage toute la pépinière, où là, bien sûr, eh bien, il y a un collectif, il y a une coordination qui gère un peu et la destinée du lieu, de cette micro-société, de ce phalanstère dont je parlais tout à l'heure. Et donc, c'est ce collectif qui dit, non, là, ça ne va pas dans le sens de ce que l'on veut faire, là, il y a des risques, etc. Mais autrement, c'est géré de façon associative. Il y a des présidents, mais alors, c'est des présidents particuliers. Par exemple, le président de la compagnie Pro, il dirigeait un hôpital de jour pour des enfants un peu cabossés. Et en même temps, il écrit. Il écrit du théâtre, il écrit des nouvelles, il écrit. Et par exemple, sur le festival, on a décidé de fêter son écriture, ce qu'on n'avait jamais fait. Voilà. Donc il y a des gens, ça croise. C'est des gens très... Je crois que la présidente de la jeune compagnie, en ce moment, est à New York. Elle est là-bas. Mais ça n'empêche pas de bosser. Ils sont sur visio. Moi, je suis plutôt pigeon voyageur. Mais ça n'empêche pas. Ce qui est intéressant, c'est de travailler sur des générations différentes.
Et on ne passe pas trop de temps en réunion, etc.
Alors, on vous dira que non, pas assez, voilà. Bizarrement. Mais aussi, ça aussi, il y a des choses... Moi, je me dis qu'un modèle politique, sociétal, est très lié au bâtiment. Quand on fait... Là, comme les bâtiments sont grands, comme il y a plusieurs façons, par exemple, on va récupérer 120 mètres carrés de bureaux. On sait qu'il y aura plus de réunions parce qu'on aura un lieu qui sera vraiment identifié, attribué pour les réunions. Pour le moment, ce n'est pas le cas encore, donc c'est un peu, on en fait quand même pas mal. Mais pas assez par rapport à l'activité qui est très... On est à 280 jours d'activité par an, grosso modo. Donc c'est beaucoup pour un lieu qui est en pleine cambrousse. Quoi.
Et est-ce que... Là, j'ai dans les mains ce fameux festival. Est-ce que... Le 14e. Est-ce qu'au niveau de l'esthétique...
Oui.
Y a des choses, des envies, des est-ce qu'il y a eu des virages pris par moment
Oui, ce qui est intéressant quand il y a un collectif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un metteur en scène, et donc il y a plusieurs esthétiques. Par exemple, moi j'aime beaucoup Nathalie Sarraute, réputée auteure, autrice difficile. Intellectuelle, ce que je ne crois pas forcément d'ailleurs, parce qu'on l'a même joué, je l'ai joué un peu partout, dans des villages, dans des lycées professionnels en Guyane et tout, ça m'a... prouver que non. Et autrement, il y a du théâtre très populaire qui se monte aussi. Ben, Chantecler, par exemple, qui est très bien écrit, mais qui fait partie, il y a eu en revenant de l'expo. Cet été, c'est un spectacle d'un contemporain de Shakespeare, Ben Jonson. Voilà, donc il y a des auteurs très différents. Ça dépend aussi de nos envies. Et après, je dis toujours, moi, je ne suis pas pour donner un thème. Quand je dis, imaginez, on donne le thème blanc cette année. Ah, c'est con, le spectacle qui s'appelait blanc est nul, et le spectacle qui s'appelait rouge est génial. Ben non, je ferais le spectacle rouge. Donc la limite d'avoir un truc thématique.
Donc il n'y a jamais eu de grosses frictions, en tout cas pour ce qui est des...
Oh la vache, oh là là,
c'est bon ça.
Ah ben, par moments c'est Fight Club. Non mais ça ne l'est pas, parce que justement ça frictionne passionnément, mais ça construit toujours, quoi. C'est ça. Et en plus, quand je dis ça, je me vante, ça frictionne pas tant que ça.
Et c'est
si
vraiment... ça fonctionne sur le mode de la confiance. Toi, t'as envie de ce spectacle, moi, j'y crois pas vraiment, mais vas-y. Et puis, si tu gagnes, très bien. Et si t'as eu tort, c'est pas grave, t'auras appris quelque chose, c'est ça ?
Non, parce que oui et non. Oui et non, parce qu'à un moment, je crois, et c'est là où il y a avoir une ligne artistique, c'est justement que ce n'est pas l'école des fans, ce n'est pas chacun à 10, et puis c'est celui qui veut, puis qui parle le plus fort ou qui a le plus de stratégie. C'est un moment aussi, et c'est à cela qu'on doit être vigilant, c'est à ça que je sers aussi en tant qu'ordinateur artistique, c'est qu'il y a quand même une cohérence dans la proposition. Mm-hmm. C'est-à-dire que ce ne soit pas non plus une sorte de nivellement par le bas, mm-hmm. mais que dans l'exigence, on ne soit pas accroché arc-bouté sur ce que l'on aime faire, etc., mais que ça puisse croiser, c'est-à-dire faire confiance à ceux qui ne pratiquent pas le même théâtre que nous. Oui. Même sur un festival, je trouve ça, il y a des spectacles dont je ne suis pas forcément fan au niveau de l'esthétique, ou alors ce n'est pas forcément ma culture, mais je sais qu'à l'endroit, par exemple dans tel genre, dans le vaudeville ou tel autre, ils sont forts, ils sont bons dans ce cas. C'est ça que l'on doit défendre. Et par moment, il y a autre chose, le choix, c'est de dire on ne sait pas ce que ça va donner, mais on prend le risque d'une création. C'est-à-dire que ce ne soit pas que des valeurs sûres, qualité, la redoute, la belle rouge, tout ce que vous voulez, mais que ce soit aussi des choses qu'on va découvrir ensemble. Et les festivaliers sont de plus en plus sensibles à dire « Ah, on va être les premiers à poser nos yeux, nos oreilles sur cette esthétique-là, sur ce travail-là. »
Parlons des festivaliers, pour finir. Combien de personnes est-ce que vous accueillez habituellement sur un festival comme le 14e festival?
C'est à peu près 3000 personnes. Cette année particulière, comme on le sait, j'en ai marre, ça fait 2 ans qu'on dit que c'est une année particulière. Et j'ai l'angoisse que la particularité de cette année devienne la norme. Et on nous y aide. Voilà, par exemple, il y a Louise qui passe pas loin, qui est la metteuse en scène de ce spectacle, oui. dont c'est la création. Ça, c'est très important pour nous. Franchement, j'aime mieux accueillir un spectacle. Même, admettons que les gens n'aiment pas, admettons que ce ne soit pas une réussite, le spectacle vu. C'est quand même hyper important de dire, on était les premiers, on a vu la naissance d'un spectacle. Il y a d'autres choses, il y a des lieux, sincèrement, je n'aimerais pas, quelles que soient les réussites qui soient, j'en ai rien à faire que l'on enchaîne, que des succès qui sont vus partout, qui sont labellisés partout. Moi, ce que j'aime, c'est quand des spectateurs sortent de l'escabeau en disant oh, « Comment je ne pouvais pas connaître cet artiste ? Comment ça se fait que ce David Ayala, un des plus grands comédiens du théâtre français qui est venu jouer ici, comment ça se fait que je ne connaissais pas ? Parce qu'il n'est pas connu. Comment ça se fait que Karine Gonzalez, immense danseuse de flamenco, qui joue dans les films de Tony Gatliff, etc., mais qui n'est pas connue par le grand public, quand on la voit, on dit « Mais comment j'ai pu échapper à cet artiste-là » Et là, ça me parle, ça me plaît quand ça... Quand les gens se disent « Ah, on participe », j'aime bien que les spectateurs, pas seulement les spectateurs.
Alors, depuis tout à l'heure, là, je dévore des yeux et des oreilles, Stéphane. Je me dis « Bon sang, c'est incroyable !» En fait, ce type, il vient de me faire d'abord mon spectacle à moi, votre spectacle à vous, entre Loir et Loin. Et puis un jour, il suffirait qu'il fasse ça, une sorte de conférence gesticulée, comme on dit, sur le théâtre, en peu de choses. Ça peut être mis... ça peut être mise en place, hein, mais, ça, Stéphane.
Oui, figurez-vous, je l'ai fait sur Sarotte. Je faisais des causeries dînatoires où l'important, c'était de manger aussi en causant de Sarotte.
C'est extraordinaire.
C'était bien. Ouais. Et puis, vous avez vu, il y a des expositions aussi qui se font. Par exemple, on est très fiers d'exposer. On a exposé pendant 3 mois Dada, qui est un monsieur qui habite sur place. Hein, oui. Dada, le philosophe, et qui a fait les Beaux-Arts. Et il n'avait jamais exposé de sa vie, donc à 84 ans, on s'est dit, ben maintenant, tu n'as pas le choix. Et il a fait des œuvres extraordinaires, dont un rouleau de 49 mètres qui se déroule sur une vie, un autre de plus de 100 mètres, voilà. Et ça, c'est à voir aussi, que ce soit un lieu d'exposition. Et la dernière chose, peut-être pour moi, importante, c'est que je trouve j'aime bien qu'on pense au sans-toi, en général. Et il se trouve aux gens, oui, qui n'ont pas de toit. Et il y a beaucoup de compagnies qui n'en ont pas, donc je trouve ça important que nous, comme on a des long toit, eh bien, on puisse accueillir des compagnies en résidence, des compagnies fragiles et qu'elles aient un outil pour travailler. C'est aussi notre...
Alors, tout ça, c'est beau. Moi, j'aurais une seule petite réserve, c'est que je trouve que c'est un peu compliqué d'être au courant de ce qui se passe à l'escabeau.
C'est sûr.
Ils ne sont pas forts là-dedans. Alors, ce n'est pas grave, ils vont s'améliorer. Et puis en attendant, on va être très à l'écoute, on va être pointilleux pour régulièrement vous mettre au courant de ce qui se passe ici. Voilà, on va les traquer un peu. Puis si le monsieur il parle toujours comme ça, moi je leur demande. Merci Stéphane.
Merci.
Il aurait mieux valu si j'avais su rester de glace. Sa trace et enterrer le corps. Mais dehors il faisait si bon, tu t'en souviens encore comme les jours étaient longs. Et dehors il fait si froid depuis ça fait des mois que je fais le mort. Et c'est bien connu, les autres se lassent, se gonflent de remords. Moi j'aurais voulu, si j'avais pu changer de place, déjouer le mauvais sort. Mais dehors il faisait si bon, tu t'en souviens encore que mes jours étaient longs. Si froid depuis ça fait des mois que je fais le mort.
La main tendue, je touchais de mon index le sommet de son crâne, où je ressentis la boursouflure végétale à l'endroit où avaient poussé ses bois. Puis je prolongeais mon contact jusqu'à ses naseaux chauds et humides. Je m'écartais ensuite pour voir de plus près les autres animaux restés immobiles à mon approche. Les lapins étaient rassemblés d'un côté. Assis sur leur postérieur, ils m'observaient sans crainte. L'un d'eux se redressa comme pour me spécifier qu'il était le représentant. Son poil était soyeux, très doux. Au toucher entre mon pouce et mon index, je sentis le fin cartilage de ses oreilles. J'adore ce passage-là, Ludovic Hamelot. J'adore le passage où votre personnage dans La Sentinelle de la Forêt, qui est votre roman, se retrouve face à tous les animaux de la forêt. Ça a un côté évidemment onirique, et puis un côté Blanche-Neige, et puis un côté enfant, et puis un côté qui nous fait du bien de pouvoir imaginer que nous sommes les amis des animaux et qu'on va pouvoir comme ça rentrer en liaison directe avec eux, physique et puis également langage, puisque vous parlez avec ces animaux dans votre roman, c'est ça ?
Pas moi précisément,
le personnage
principal, oui. Oui, effectivement. Donc il y a cette scène où le personnage principal est en contact avec les animaux de la forêt. Alors on ne sait pas si on est dans son délire à lui ou si on bascule dans le fantastique. Ça, je laisse libre choix au lecteur d'interpréter ce passage.
Alors Ludovic, c'est votre premier roman. Oui. Vous n'êtes pas dans le sérail des écrivains, mais vous habitez en lisière de forêt d'Orléans, et c'est cette forêt qui vous a donné envie d'écrire.
La nature, d'une manière générale, c'est vrai que j'habite en lisière de la forêt d'Orléans, à Bouzy-la-Forêt. Je déménage bientôt, j'habiterai au bord, donc je m'éloigne pas vraiment.
Ah bon.
Voilà. Et donc j'aime la nature depuis toujours. Mais la forêt d'Orléans, je la parcours dans tous les sens depuis quelques années, oui. En toute saison, et j'aime beaucoup m'y promener, m'y perdre.
Comme votre personnage. Mais est-ce que comme votre personnage, il a des côtés dépressifs, le personnage, hein, quand même. Donc on dit c'est pas Ludo, hein. Mais est-ce que comme votre personnage, vous prenez beaucoup de photos également ?
Non, pas vraiment. Non. Après, c'est pas un roman autobiographique, même si certains passages sont largement inspirés de ma vie, ouais, et puis de choses observées, vécues, fantasmées. Mais non, c'est pas un roman autobiographique.
Bon, alors justement, donc parlons de l'histoire. L'histoire, c'est un type qui est au bord du burn-out, et puis c'est ça. Hein, et puis il va retrouver un petit peu un sens à sa vie dans la forêt, mais jusqu'à s'y perdre aussi, quand même.
Oui, au sens propre comme au sens figuré, il se perd en forêt, oui. C'est un peu ce thème-là que j'aborde, oui. Un homme qui est un peu désabusé et qui tente de redonner un sens à sa vie en se rapprochant de la nature. Il essaie d'emmener aussi sa famille dans son périple. Et après, voilà, il lui arrive plein d'aventures dans cette nature.
Voilà. Alors, il y a des passages durs. Il y a ce passage très doux, très positif, avec les animaux, c'est très mignon. Alors, il y a les lapins qui sont à côté des renards, à côté de, etc. Tout le monde s'entend bien. Et puis, il y a un passage très dur qui est le passage de la vénerie. C'est ça? De la chasse à cours.
Oui, alors c'est un chapitre complet sur un épisode de chasse à cours. Là, j'ai voulu un petit peu mettre des mots sur des émotions que j'avais ressenties pour m'être moi-même trouvé au milieu d'une chasse à cour alors que j'étais en pleine promenade en forêt avec mon chien. Ouais, je suis vraiment attristé par ce genre de manifestation, j'ai essayé de dénoncer tout ça sans écrire à charge, hein, bien sûr, mais j'ai voulu écrire sur une scène de chasse à cour. Voilà.
Est-ce que les photos qu'on trouve là-dedans, ce sont vos photos à vous ?
Alors,
par exemple, la même mare où j'avais observé les traces. Voilà, une des photos.
Alors, quelques-unes sont de moi, mais la plupart sont de... La plupart proviennent d'un photographe animalier et de son ami. Bruno et Evelyne, et puis aussi Cécile Richard, la directrice de la maison d'édition du Jeu de Loi, m'en a offert quelques-unes. Voilà.
Alors ça se lit bien, ça se lit facilement, je dirais. C'est frais, il y a des moments durs, parce que à un moment donné on change de narrateur, et c'est la fille du papa qui parle de son père, qui le trouve vieilli, absent. C'est poignant.
Oui, alors cet effet de style, je sais pas si vous connaissez L'été meurtrier, il y a un changement de narrateur à la fin du film. La vieille tante prend reprend la narration comme pour accentuer ce phénomène de perdition, enfin de chute des personnages principaux. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Voilà.
Alors Ludovic, où est-ce qu'on trouve ce roman, La Sentinelle de la Forêt ?
Alors, il est disponible sur plusieurs plateformes. Et puis, la librairie Au Fil des Mots à Gien et la librairie du Hérisson à Montargis, tenue par Stéphanie, chez qui j'ai fait une dédicace il y a de ça quelques semaines. Voilà.
C'est là qu'on s'est rencontrés, ou du moins vous avez rencontré Pascal Weber, qui est derrière la caméra. Oui. Et depuis, vous êtes rentré dans Territoire d'écriture, le petit collectif qui s'est monté à la base dans le Gâtinais Est. Et puis, on vous a ouvert les bras.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, je les remercie encore puisque c'est une vraie opportunité pour moi de rencontrer le public et puis de faire la promotion de mon roman. Voilà.
Merci beaucoup. À bientôt.
Merci à toi. À bientôt.
Bonjour, je suis Jean-Paul, naturopathe dans votre région. Je vous propose du lundi au samedi ma chronique « Le Conseil Santé » sur Radio C2L pour vous donner toutes les clés de votre bien-être au quotidien.
C2L, www.c2l-radio.fr.
Le Nous sommes toujours entre Loire et Loin, c'est le magazine du Gâtinais, à la radio, chaque samedi à 10h sur C2L, mais aussi en vidéo sur les réseaux, sur Facebook, sur YouTube. Abonnez-vous à notre page Facebook, likez, commentez, partagez et regardez notamment les magnifiques vidéos que nous avons pu tourner le week-end dernier à l'Arboretum des Bars, à Nogent-sur-Vernisson, où nous avons rencontré une jolie et sympathique équipe de gens passionnés et donc passionnants. Bonjour à tous, amis d'entre Loire et Loire. Bon, deuxième prise, parce que je n'avais pas mis le son. Alors...
Bonjour à tous. Ça peut être la signature de l'émission.
Non, mais il dit n'importe quoi, monsieur Weber. Oh, bonjour à tous, amis d'entre Loire et Loire. Deuxième prise, avec le son cette fois-ci. Alors, on a décidé, avec Anita et Pascal Weber, de nous retrouver aujourd'hui à l'Arboretum des Bars. Il fait beau, c'est l'automne, on s'est dépêché parce que c'est leur jour de fermeture saisonnière. Alors, c'est pas grave, on est venu faire de belles images, vous pouvez compter sur Pascal Weber. Et puis, on vous donne envie pour la réouverture au printemps prochain. Et alors, c'est super parce qu'on fait de belles rencontres, évidemment, et entre autres avec Marie, ici présente, et de l'autre côté, Bérangère, ici présente. Ces deux jeunes femmes sont les piliers de l'association... Écolocataire TE2R, qui s'occupe des visites ici, qui s'occupe de l'accompagnement pédagogique des publics. Alors, Bérangère, c'est quoi ton rôle dans l'association ?
Je suis la guide.
Regarde le monsieur là.
Ah, je regarde le monsieur. Je suis guide, animatrice, et puis je m'occupe de tout ce qui est la partie pédagogique. Donc, on peut dire responsable pédagogique, ça fait bien.
Ah oui, c'est bien. Hein?
Et puis, du coup, de tout ce que ne fait pas Marie.
Alors, voilà. Alors, Bérangère, elle habite Saint-Firmin-des-Bois. Et Marie, qui est la présidente d'Écolocataire, elle habite de l'autre côté, Châteauneuf-sur-Loire. Ça veut dire que c'est quand même une association un petit peu importante quand même, Marie.
Ah oui, mais complètement. C'est surtout une association incontournable maintenant dans l'éducation à l'environnement, dans le Loiret. Donc, association qui est née en 2016. Alors moi, je fais pas grand-chose. Donc, pour parler de l'association, c'est Bérangère qui est bien mieux placée que moi. Moi, je signe le papier et je vais en prison si jamais il y a à aller en prison un jour. Donc, j'espère que je n'irai pas. Association donc d'éducation à l'environnement, dont l'objectif, finalement, est de faire découvrir des sites du Loiret à tous les publics, que ce soit les grands, les petits, des gens qui peuvent marcher ou qui peuvent moins bien marcher, toutes sortes de personnes, donc qu'on soit à l'école ou qu'on soit plus à l'école, que ce soit les week-ends ou en semaine. Et puis, il y a aussi une partie création d'ateliers pédagogiques, voilà, qui est aussi pris en charge par Bérangère, donc fait par Bérangère. Cette association, on est sur le département du Loiret avec plutôt une prédilection pour la partie Est, pour l'instant, voilà. On travaille essentiellement en extérieur. On peut aussi travailler en intérieur, mais il nous faut un support minimum en extérieur, que ce soit forêt, jardin, voilà.
Alors, Écolocataire intervient ici depuis 2019, depuis qu'il y a eu des changements d'organisation, mais elle intervient également, par exemple, à Montargis. Raconte.
Moi, faut que je raconte. Non, la mieux placée, c'est Bérangère.
Ah bon, alors, je change. Raconte, Bérangère.
Alors oui, on fait découvrir notamment à Montargis le jardin d'Urzy, qui est le petit jardin autour du musée Giraudet, puisque quand même la volonté de l'association, c'était de faire découvrir aux gens les espaces de nature qui étaient pas loin de chez eux. Et le jardin d'Urzy, voilà, c'est un espace que les gens traversent très souvent, ils vont se promener, s'asseoir, bouquiner, etc. Mais en fait, ils ne le connaissent pas réellement. Donc l'objectif était de faire découvrir ce jardin, ce qui fait qu'on a organisé des visites guidées dans ce jardin une fois par mois, avec des thématiques pour pouvoir du coup découvrir des arbres différents ou des angles différents sur des mêmes arbres. Et voilà, donc c'était l'objectif et c'est là d'ailleurs qu'on a débuté à faire notre première découverte de l'environnement sur le jardin d'Urzy avec l'accord de la ville de Montargis.
Alors Bérangère, tu pratiques un peu la même chose ici, même complètement la même chose. Les visites de Bérangère ici sont des visites thématiques qui ont lieu tous les mois avec des changements de thème, y compris des changements de thème tous les ans. Donc ce qui veut dire que on peut revenir tous les ans, on reverra pas la même chose, même si c'est passionnant et qu'on pourrait même le voir deux fois, trois fois avant de tout comprendre. Mais alors raconte encore. Alors voilà, ce qui se passe ici à l'Arboretum.
Eh bien, c'est ce qui se passe un peu dans chaque jardin dans lesquels on organise des visites régulières. C'est que, eh bien, la visite, elle est thématique. Donc, sur l'arboretum, comme c'est ouvert quand même plusieurs jours dans le mois, la thématique, elle est sur le mois. Donc, toutes les visites du mois d'avril, par exemple, auront la même thématique. Et puis, passé au mois de mai, on va changer la thématique. Et l'idée est toujours la même. L'idée était de pouvoir fidéliser des gens pour qu'ils puissent revenir et découvrir des nouvelles choses. Alors, en plus, si on compare l'arboretum au jardin d'Urzy, c'est quand même beaucoup plus grand. Il y a beaucoup plus d'arbres et d'essences différentes, même si le jardin d'Urzy en comporte déjà pour sa taille une très, très grande diversité. Mais donc, ça permet de pouvoir voir des espaces de l'arboretum différents, d'aborder les arbres différemment. Donc, voilà, je change la thématique chaque mois. Et d'une année sur l'autre, voilà, ce ne sont pas non plus les mêmes thématiques. Après, ça arrive quand même. Bien sûr, je les reprends parfois. Donc, si voilà, il y a une thématique que j'ai faite il y a 3 ou 4 ans, je peux la reprendre pour quand même pour les utiliser, parce que ça demande beaucoup de travail. Donc, donc voilà.
Bon, Marie, c'est bon. Ah, hold. Non, c'est bon. Marie, raconte-nous, tu le vois le travail de Bérangère, c'est quoi ses qualités, quelles sont les thématiques qui t'ont plus intéressée, raconte.
Alors, je crois qu'il faudrait plus regarder le livre d'or, puisque Bérangère est quelqu'un qui aime encore beaucoup le papier. Donc, vous trouverez un livre d'or papier, mais c'est génial. Ça, c'est ces petits côtés qui sont formidables.
C'est...
Exactement. Alors, c'est du recyclage. Ce sont des petits papiers découpés, recyclés. Et c'est ça qui est formidable, en fait, c'est cette réutilisation, le prendre le temps de se poser, de regarder, de réutiliser ce qu'on a vu, ce qu'on a appris, de voir son environnement qui est proche de chez nous. Et ça, c'est des choses qu'elle fait à merveille, que ce soit pour les grands ou les petits. Elle est complètement en capacité d'adapter son discours à des personnes qui sont en face, de créer des choses pour nous amener à réfléchir et à avancer et à aimer ce qu'on aime et à protéger ce qu'on aime autour de nous, qui sont ces arbres, cet environnement.
Toi, t'as une grande passion de l'arbre parce que t'en as fait ton métier.
J'en ai fait mon métier, ça fait 20 ans que j'en ai fait mon métier. Je les aime, oui, c'est vrai, j'aime ces arbres et j'aime cet environnement. Et c'est des choses, que ce soit des arbres en ville ou des arbres en arboretum ou en forêt, oui, il faut les regarder. Regardons ces arbres, prenons...
T'as un peu peur pour eux ?
J'ai un peu peur pour eux, j'ai un peu peur de ce qu'on va devenir pour eux et pour nous, parce que finalement, on dépend d'eux. Et si eux vont pas bien, je pense que nous, on peut pas aller bien. Et les seuls à pouvoir faire avancer, faire changer, c'est nous. Donc c'est aujourd'hui, quoi. Il faut les regarder, il faut en prendre soin et il faut les comprendre, il faut essayer de, voilà, sans les personnifier forcément, mais c'est un milieu qu'il faut qu'on regarde, oui. Ouais, ouais.
Bon, donc la sensibilisation du public, des publics, des enfants plus particulièrement, est-ce que les adultes c'est déjà foutu
Non. Ah non, pas du tout. Les adultes c'est pas du tout foutu. Mais on fait aussi les enfants bien sûr. Mais non, les adultes au contraire, il y en a beaucoup qui sont prêts à changer de vision parfois et c'est très intéressant de voir parfois certains changer leur vision. Au fil des visites, parfois, s'ils viennent plusieurs fois, ou même des gens qui, dans une visite, eh bien, n'ont pas du tout la même attitude au début de la visite et à la fin de la visite. Et donc, je peux raconter une anecdote ?
Ah, raconte une anecdote.
J'ai fait donc une visite au début de la saison qui était l'arbre au-delà des idées reçues. C'est-à-dire que donc j'essayais de combattre toutes les idées, enfin toutes, un certain nombre d'idées reçues qui sont véhiculées sur les arbres, comme on va dire par exemple que le lierre étouffe les arbres. Donc tout le monde croit ça. Ce n'est pas du tout vrai. Mais ça existe ça depuis tellement longtemps comme idée que tout le monde pense que c'est toujours vrai. Mais les découvertes récentes ont prouvé que ça ne l'était pas. Donc c'était des petites choses comme ça sur les arbres. Et dans une visite, j'ai eu un monsieur qui était mais extrêmement, je voyais au début de la visite, mais fermé. Et je voyais qu'à chaque fois que je lui racontais quelque chose en lui disant « Mais non, ceci n'est plus vrai, on a découvert que ce n'était plus vrai. » Voilà, il était très, très réticent et en me posant au début des tas de questions. « Bah oui, mais vous dites ça, mais oui, moi j'avais entendu ci, entendu ça. Bon. » Donc à chaque fois, je lui apportais une réponse par rapport à mes connaissances. Et puis au fil de la visite, il y avait moins de questions. Bon, Et puis, je le voyais, il se détendait, il faisait plus partie du groupe, etc. Et à la fin de la visite, comme je demande toujours aux gens d'écrire sur le livre d'or, il m'a dit, écoutez, Bérangère, vous êtes incroyable. Je suis venue avec des semelles de plomb et vous avez complètement changé ma vision des arbres. Merci à vous. C'était fantastique.
Et je repars avec des ailes à mes chaussures, voilà. à mes cothurnes du coup.
Et c'était le plus beau cadeau en fait, voilà, qu'il aurait pu me faire parce que voilà, j'ai réussi à lui faire changer sa vision, peut-être pas sur tout, mais il était totalement différent après la visite et en arrivant au début de la visite.
Bon, je pense moi, les communautés de communes ou les municipalités peuvent faire appel à écolocataires pour faire des diagnostics, pour faire des visites, pour faire de la pédagogie auprès des citoyens, des écoles, etc.
Oui, alors d'ailleurs, il faut qu'on remercie la communauté de communes qui aujourd'hui nous permet d'abord l'accès et ensuite qui nous rémunère exactement pour les visites guidées qui sont à destination des publics individuels les week-ends d'ouverture. Et effectivement, toute personne peut solliciter l'association pour une visite guidée, un atelier créatif, créer des outils pédagogiques. Il y a, voilà, que ce soit une personne physique ou une personne morale, il faut appeler l'association. Nous serons au bout du fil pour vous répondre et vous indiquer voilà, si on peut faire ou on ne peut pas.
J'ai des petites idées et on va le faire, je crois. Merci les filles, à bientôt.
Merci, à vous.
D'une coulemelle, j'ai fait une ombrelle et d'un champignon tout rond. J'ai fait un chapeau melon. J'ai mis ma collerette, mon habit de fête, pour aller danser un peu chez le roi des elfes bleus. Champignon marron, mon champignon si bon, mon champignon, nous danserons sous les liserons. Une belle girole qui faisait la folle dit, je me marie demain, un bolet voudrait ma main. Tête de girole, tête, tête folle, vous n'avez ni bras ni main, vous n'avez qu'un pied très fin. Champignon marron, mon champignon si bon, mon champignon, nous danserons sous les liserons. Madame Morille, qui est si gentille, pense qu'il est de bon ton d'aimer un pied de mouton. Mais son mari grogne, grogne, se renfrogne, car il est, ça c'est trop fort, une trompette de la mort. Champignon marron, mon champignon si bon, mon champignon, nous danserons sous les liserons. La belle orange, j'ai compté mes songes, elle m'a dit que bientôt j'habiterai un château. Grand merci la belle pour cette nouvelle, je m'en vais danser en rond avec 30 mousserons. Champignon marron, mon champignon si bon, mon champignon, nous danserons sous les liserons, sous les liserons.
C'est de zèle. Amis d'Entre-Loire-et-Loin, je suis en présence d'un homme presque parfait, Julien, qui qui a créé un jardin presque parfait il y a quelque temps et on commence à entendre diablement parler de lui dans la région. D'abord de ses terres d'origine qui se trouvent à La Celle-sur-le-Biais, en passant par Château-Renard entre autres puisqu'il travaille avec les amis de Vallée-Gâtinaise et puis qui se trouve ici désormais être un pilier de l'Arboretum des Bars. Salut Julien.
Bonjour, ça va?
Ouais, ça va bien. Alors raconte-nous ce que c'est qu'un jardin presque parfait.
Alors, en fait, j'ai souhaité créer un jardin presque parfait suite à ma passion pour les plantes. J'ai commencé en arrivant dans le Loiret en 2008 par avoir des collections de plantes. D'abord des légumes perpétuels, ensuite des aromatiques. Puis je me suis un petit peu passionné pour d'autres plantes telles que les tillandsias ou les carnivores. Et c'est de toute cette passion qu'est née l'envie de partager avec le public les plantes que je cultive. Donc j'ai choisi de monter mon entreprise en pleine pandémie, l'année dernière. Un choix très judicieux, j'avoue. Donc bon, on fait avec, hein, c'est comme ça. Et donc du coup, depuis cette année, fin de l'année dernière, je travaille avec l'Arboretum des Bars sur un plan de production des plants de l'Arboretum. Puisqu'auparavant, il y avait une pépinière qui a disparu avec le départ de l'ONF. Et en lien avec la communauté de communes et l'ONF, j'ai des autorisations spécifiques pour venir prélever un certain nombre de boutures sous le contrôle de l'ONF, bien sûr, hein, parce qu'on n'a pas le droit de prélever au sein de l'Arboretum.
Qu'est-ce que tu as reproduit comme arbre ?
Alors, pour l'instant, on est sur des toutes petites boutures. Hein, on est sur des plants qui font entre 5 et 10 cm. Hein, donc, on est sur une production qui sera viable d'ici un ou deux ans. On est sur, pour l'instant, une cinquantaine de variétés. Si tout se passe bien, si le changement climatique ne nous dérègle pas toutes les boutures. Voilà, on a fait deux campagnes cette année, on va en refaire deux, j'espère, l'année prochaine. Voilà, après, aujourd'hui, j'ai une quinzaine de variétés que je propose au public, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une variété plus importante avec les arbres les plus magnifiques de l'Arboretum.
Alors ça, c'est spécifique à l'Arboretum, mais toutes les plantes que tu vends en dehors, d'ailleurs, j'ai oublié de parler du marché qu'il y a aux caves de Monsieur Sassaigne. Alors, c'est tous les vendredis à Courtenay, c'est ça?
C'est ça. Tous voilà. Les vendredis à Courtenay, on a un petit marché de producteurs au Cap Sassaigne à Courtenay.
Voilà, alors vous voyez, hein, on commence à faire la trame sur le territoire avec ce genre de producteurs qui proposent à la vente des plantes, alors des bégonias, là on a des chèvrefeuilles, etc. Mais également des choses, voilà, on vient te voir pour une plante à fromage, par exemple.
Une plante fromage, donc tout à fait. La plante fromage, c'est une plante qui a été créée pour les gens qui sont allergiques au lactose, qui permet en fait de faire un fromage végétal. On va le mélanger avec du tofu et en le faisant cuire le goût du fromage va aller dans le tofu et ce qui va permettre en fait de faire un fromage 100% végétal. Donc on a la plante à fromage qui est une plante plutôt originale, on a aussi la plante champignon qui est une plante au goût de champignon qu'on va manger en salade, mais moi j'ai aussi par exemple le basilic perpétuel qui est un basilic qu'on peut cultiver toute l'année à la maison, j'ai aussi du patchouli qui est une plante qu'on trouve rarement mais qui permet de parfumer un petit peu sa maison. Voilà, c'est tout un tas de plantes que j'ai chinées à gauche à droite durant mes différents parcours et mes différentes visites des foires aux plantes qu'aujourd'hui je décide de proposer aux clients.
Et puis alors, t'es un drôle de gars parce que t'aimes bien les filles de l'air, toi.
Exactement. Donc effectivement, on a une petite passion pour les tillandsias. Donc les tillandsias, ce sont des plantes qui n'ont absolument pas besoin de terre, mais qui ont besoin d'être arrosées. Par contre, ça, je le rappelle, hein, parce que souvent les gens viennent me racheter des tillandsias en me disant mais je l'ai arrosé avec l'eau du robinet. Alors, les tillandsias, ce sont des plantes qui s'arrosent une fois par semaine l'hiver, 3-4 fois par semaine l'été, avec de l'eau de pluie. Et je précise bien pluie, parce que la dernière fois, j'ai un client qui m'a dit mais je l'arrose avec mon eau de puits. Mais c'est pas la même chose. En fait, c'est de l'eau déminéralisée. On peut utiliser l'eau du fer à repasser, il n'y a aucun souci, mais pas l'eau qui a été minéralisée, puisqu'en fait, ça bouche les capitules et ça tue la plante. C'est exactement le même système de nutrition que la plante carnivore, qui a besoin d'eau de pluie pour pouvoir ne pas mourir.
Dis donc, Julien, tu es l'exemple d'une conversion professionnelle réussie ?
Réussi, je sais pas, on verra, on commence tout doucement. En tout cas, une conversion professionnelle, effectivement, puisque moi, à la base, je suis éducateur spécialisé. Alors aujourd'hui, je continue toujours mon activité d'éducateur à différents niveaux, hein, puisque je suis formateur pour adultes et j'exerce également dans certaines institutions, mais je conserve un certain temps pour mes plantes.
Et donc, du coup, tu peux avoir aussi une proposition pédagogique envers, pour certains publics, pour alors, les enfants, etc.
J'anime des jardins pédagogiques en promouvant la permaculture. Actuellement, je travaille pour un institut thérapeutique éducatif et pédagogique, donc pour des enfants qui ont des troubles du comportement, et aussi dans une maison de retraite où, du coup, on organise des jardins. Alors, à la maison de retraite, l'idée, c'est d'inviter les familles à venir participer, à venir plus souvent voir leurs personnes âgées, leurs familles. D'organiser aussi quelque chose d'un petit peu collectif. Et puis, avec les enfants, c'est plus l'idée de sensibiliser à la nature, à la découverte des animaux. Voilà, j'ai commencé il y a 2 ans cette activité. On a commencé avec des enfants qui avaient peur du moindre ver de terre. On est aujourd'hui à des enfants qui arrivent
à manger des vers de terre.
Alors, j'ai essayé, j'y arrive pas. Hein, mais en tout cas, à les toucher. Non, mais on est sur découvrir les mangeurs de bois, les insectes pollinisateurs. Une sensibilisation à la nature qui permet vraiment sur les enfants, parce que je travaille pas dans le Loiret, hein, je suis plutôt en Seine-et-Marne, dans un milieu urbain. Du coup, vraiment de sensibiliser les enfants à la nature, à des choses qu'ils connaissent pas. Hein. Par exemple, pour eux, planter un pied de tomate, c'est maintenant. Bah non, leur expliquer que le pied de tomate, ça se plante au printemps et que à cette période, avec le gel qu'on a eu, il y en a plus. Ça, c'est compliqué pour eux parce que eux, quand ils vont dans le magasin, il y a des tomates quasiment tout le temps. Et en fait, c'est juste cette sensibilisation qui est peut-être pas grand-chose, mais qui va peut-être permettre demain qu'ils mangent des légumes de saison, tout simplement.
Bah oui, mais enfin, tu dis que tu t'adresses à des enfants citadins, mais je crois que nos enfants ruraux, ils en sont même stade, hein, grosso modo.
Grosso modo, peut-être un peu moins, parce que quand même, nos enfants sont peut-être un peu plus sensibilisés au jardinage. Mais dans certains quartiers où j'ai travaillé il y a quelques années, effectivement, des jardins pédagogiques ou des jardins ouvriers seraient nécessaires et sont aujourd'hui nécessaires pour... permettre aux jeunes, mais comme aux moins jeunes, hein, j'ai envie de dire, les tomates en plein hiver, on sait bien qu'elles viennent pas de France et qu'elles sont bourrées de pesticides et d'eau et qu'elles n'ont aucun goût. Enfin, je veux dire, si tout le monde pouvait savoir que la tomate, c'est juste l'été, les gens, on aurait gagné pas mal de choses.
Bon, alors, vous voyez, entre Loire et Loing, Julien et moi sommes l'illustration parfaite des gens qui aimons la nature et qui n'avons pas peur de la pluie. Puisque depuis tout à l'heure, nous parlons sans sourciller, sous l'averse, et on aime ça.
Écoute, je suis une plante, moi, donc je suis arrosée.
Ouais, enfin, je voudrais pas dire, on va pas parler de sa vie privée quand même. Parce que... voilà, donc vous le rencontrerez un peu partout, Julien, d'un jardin presque parfait. Et puis, je pense que le côté pédagogique est vraiment à développer, Julien.
Effectivement, hein, mais je le développe de plus en plus. Et en plus des plantes, je travaille aussi avec des animaux, puisque je mets aussi à disposition des poules pour travailler sur le recyclage, sur différentes notions. Donc, ce sont des poulaillers que je mets à disposition, soit des centres de loisirs ou soit d'institutions spécialisées. L'idée, c'est vraiment la sensibilisation à la nature et à l'écologie, en fait, hein, voilà, au respect simple des valeurs.
Voilà, tes coordonnées vont apparaître en bas de l'écran. Et puis on se revoit bientôt.
Hein. À bientôt.
Va danser toutes les danses que tu veux dans les bras de celle que tu entraînes au loin. Va sourire des sourires merveilleux pour les danseuses dont tu tiens la main. Mais n'oublie pas que ce sera toi qui me conduira ce soir chez moi. Garde bien la dernière danse pour moi. Il y a quelquefois des refrains plus forts que le vin qui vous tourne la tête. Chantez, rire, mais je t'en supplie, pour une autre que moi, ne donne pas ton cœur. Et n'oublie pas que ce sera toi qui me conduira ce soir chez moi. Oh, garde bien la dernière danse pour moi. Comprends-moi, chérie, je t'aime trop et je n'ai plus qu'un désir. C'est t'empêcher un jour de partir. Notre amour est trop beau. Allez, va danser. Tu peux t'amuser. J'attendrai le jour pour notre retour. Si quelqu'un veut que tu l'accompagnes jusqu'à la maison, dis-lui bien que non. Car n'oublie pas que ce sera toi.
qui conduira ce soir chez moi. Garde bien la dernière danse pour moi. La dernière danse pour moi. Garde bien la dernière danse pour moi. Garde bien la dernière danse pour moi.
C'est deux L.
www.c2l-radio.fr.
Alors, on est toujours à l'Arboretum des Bars. Il commence à faire moins beau que tout à l'heure, quand même. Hein. Mais alors, on a accueilli ici un petit soleil. C'est joli, ça, le petit soleil de l'Arboretum des Bars, Marie.
C'est flatteur, je suis drôlement flattée.
Moi, je trouve ça assez vrai. Et alors, en fait, Marie, tu es la chargée d'accueil, de communication du lieu.
C'est ça, et puis aussi un peu la programmation, l'organisation des journées de l'arbre. On est multitâche ici. Hein.
Voilà, alors l'idée, c'est vraiment que tu nous expliques, que tu nous fasses découvrir ce lieu qui, voilà, personnellement, je ne connaissais pas. Ah, stop, arrête, on en a parlé tout à l'heure. Et que tu donnes envie pour la saison prochaine, que tu donnes envie au public de venir ici, nombreux.
Ah, alors l'Arboretum des Bars, c'est une forêt des cinq continents, il y a des arbres de partout dans le monde, ça fait à peu près 25 hectares de balade, donc on peut y passer une journée fantastique, où du coup on va un petit peu découvrir librement, mais aussi il y a tous les jours des visites guidées, et des visites guidées qui sont fantastiques, pleines d'informations sur les arbres, et donc il y en a pour tous les goûts, pour les familles, pour les enfants, pour les adultes.
Est-ce que tu peux nous faire comment tu vas nous faire envie de venir ici l'année prochaine quand vous allez rouvrir? Vous rouvrirez quand?
On va rouvrir à Pâques. Et en fait, on peut venir un peu à toutes les saisons, déjà pour voir les arbres qui évoluent au fil des saisons, les fleurs, mais aussi, c'est qu'on organise régulièrement des événements. Alors, on a les journées de l'arbre, ça c'est le gros événement, c'est une belle fête des plantes qui est au premier week-end d'octobre. Mais on a aussi la ferme sous les arbres, ça c'est très très chouette. On a une ferme pédagogique qui vient, et ça ce sera sans doute autour du 14 juillet. Et on aura aussi en même temps une foire de volailles de collection. Et donc, voilà.
Je connais.
Et voilà.
C'est avec le CAG, c'est ça?
Avec le club avicole.
Le avicole du Gâtinais.
Voilà. Ah, le CAG, j'avais jamais fait le... Très bien.
Bon, écoute, donc, ce qu'il faut vraiment faire comprendre au public, c'est qu'ici, on rentre pas dans une forêt payante. On rentre dans un endroit, comme tu disais, de collection presque unique.
Ah mais oui. Oui, c'est une collection d'arbres unique au niveau même international, au niveau européen, elle est vraiment reconnue et même au niveau mondial. Ce sont des arbres qui viennent de partout dans le monde, qui ont été importés ici à partir du 19e siècle. Donc on a vraiment des vieux arbres, des grands arbres qui ont une aura autour d'eux. Et donc on découvre ça et c'est exceptionnel, c'est pas une forêt.
Alors, Marie, elle me disait, oui, surtout, on parle du présent de l'Arboretum, parce que j'ai oublié plein de trucs au niveau de l'histoire. Alors, on va lui demander, Marie, c'est quoi l'histoire de l'Arboretum à partir de Monsieur Villemorin, le pépiniériste, qui a décidé de planter des trucs ici? Oh, mais tu fais ça très légèrement, comme ça, tu esquisses l'histoire.
Ouais, j'esquisse. Hein. Alors, en 1821, j'ai quand même vérifié cette date, Philippe-André le Villemorin achète ici un énorme domaine de plusieurs centaines d'hectares. Et dans son idée, il fallait trouver les arbres qui allaient servir pour reformer la flotte royale. Et donc, il plante ici, l'intérêt, c'est qu'il y a plein de sols de types différents. Et donc, il plante ici plein d'arbres différents et il trouve le pin laricio. Ça, c'est la petite histoire pour refaire les mâts des bateaux. Après, il décède. Et il lègue le domaine à l'État. Et en fait, l'État, il met une école des ingénieurs forestiers. Et ce qui a une super bonne idée, c'est que les directeurs de ces écoles, et ceux qui vont se succéder, décident de faire une collection d'arbres ici. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé sur les 35 hectares de l'arboretum des Barres, vraiment, à avoir une collection d'arbres de partout dans le monde. Et ce qui est génial, c'est qu'on a ici des arbres qui ont été rapportés par des missionnaires qui allaient découvrir en aventurier les nouveaux pays, donc du coup la Chine profonde, l'Amérique, etc. Et qui ramenaient ici des graines, des petits plants, etc. Et beaucoup, enfin, plusieurs arbres de l'arboretum sont en fait les premiers arbres de leur espèce plantés en France ou en Europe. On a ici des arbres qui ont servi à décrire l'espèce. C'est quand même très drôle. C'est un arbre qui, par exemple, je pense, le Davidia involucrata, si je ne dis pas de bêtises. Donc, l'arbre au mouchoir. L'arbre au mouchoir. Si je ne dis pas de bêtises, celui-là, par exemple, il a été implanté ici en France par les missionnaires à l'arboretum des Barres. Et c'est lui, c'est un arbre de Chine, quoi. C'est celui des Barres qui a servi à décrire l'espèce. C'est quand même drôle. C'est un individu français qui sert à décrire une espèce chinoise.
Bon, alors, ici, les visites, vous l'avez vu dans un précédent reportage d'Entre Loire et Loin, elles sont assurées par Bérangère. Bérangère, là, elle va partir avec un groupe. Il y a une dame dans le groupe qui revient pour la cinquième ou sixième fois. Donc, en fait, ça se renouvelle sans cesse l'intérêt qu'on peut trouver ici à venir se balader à l'Arboretum. Après, il y a d'autres choses. Il y a des artisans d'art qui sont ici. Il y a, évidemment, on va parler avec lui. Il y a un pépiniériste super incroyable qui s'appelle Julien et qui maintenant fait partie de l'équipe. Et puis il y a des petits trucs rigolos du genre, j'ai cru voir qu'on peut faire un petit comment on appelle ça, un petit mini-golf.
Oui, il y a un mini-golf. Non, mais on a plein de trucs, on a des petits jeux de piste, on a tout ce qu'il faut pour passer une super journée. On peut manger des gaufres salées, des gaufres sucrées, des crêpes aussi, ça dépend des jours. Non, on a tout ce qu'il faut.
Alors, et puis ça coûte 5 euros l'entrée.
Et oui, seulement. 5 euros pour les adultes et 3 euros pour les 12-18 ans. Et c'est gratuit jusqu'à 12 ans.
D'accord. Pendant les vacances scolaires, vous travaillez avec les centres de loisirs, vous travaillez avec les écoles aussi
Oui, alors ça, c'est Écolocataire qui fait les visites aussi. Scolaires et qui fait les visites avec les centres de loisirs. Oui, tout ça, c'est celle que vous avez rencontrée, Bérangère.
Voilà, l'important étant que le lieu vive au maximum.
C'est ça, vous avez tout compris. Faut venir nous voir.
Merci Marie, c'est super.
Ainsi se termine notre petite balade bucolique à l'Arboretum des Barres, à Nogent-sur-Vernisson, qui rouvrira ses portes donc au printemps. Avec pas mal d'événements, on aura l'occasion d'en reparler, et puis vous pourrez trouver tout ça sur les internets. Et puis vous retrouverez toutes ces interviews également en vidéo sur les internets, sur notre page Facebook, notamment Entre Loire et Loin. Merci à nos invités, ou plutôt nos hôtes, car en l'occurrence c'est plutôt nous qui étions les invités. Merci à toute l'équipe, à Sandrine Manteau, Anita, l'équipe de C2L. C'était Pascal Weber à la réalisation. Nous étions Entre Loire et Loin. Je vous donne rendez-vous samedi prochain sur C2L. Bonne semaine à toutes et à tous.
C2L Radio. of my life. Shoot my